Chapitre 10. Leur conversation et les pages griffonnées du carnet de Colin ramenèrent Léane à ses souvenirs douloureux. La soirée du 23 janvier 2014 s'imposa à elle comme si c'était la veille. Elle se rappelait sa promenade sur la plage déserte à chercher une idée de livre qui ne venait pas. Le clapotis des vagues, la fuite des crabes dans les rochers après leur longue ligne droite sur le sable mouillé. Le brouillard arrivait en rouleau épais par la mer. Elle avait reçu le message et le selfie de Sarah un peu avant 17h30, alors qu'elle atteignait le blockhaus situé dans la partie sud de la baie, à environ 1 kilomètre de la villa. À 19h45, elle avait cherché à joindre Juliane sur son portable, inquiète de l'absence de leur fille plus de 2 heures après son départ, et lui avait laissé des messages à maintes reprises. Il n'avait répondu qu'aux alentours de 20h30, prétextant avoir travaillé tard dans la crypte de la basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, à 40 kilomètres de là. On n'a pas tardé à découvrir que Juliane avait menti. Pendant que ta fille disparaissait, il n'était pas au travail, mais avec Natacha Dambrine, sa supérieure, architecte du patrimoine. Il a mis du temps à avouer la vérité et a bien failli aller en prison pour une histoire de cul. Léane but une gorgée d'alcool. Elle se rappelait les accusations insupportables à l'encontre de son mari et comment Juliane avait été pitoyable quand il avait dû reconnaître son adultère devant elle et les flics. La honte qu'il avait écrasée. Sa descente aux enfers juste après. Et elle, qui n'avait rien vu, absorbée par sa recherche d'idées pour un livre qui allait devenir 4 ans plus tard, le manuscrit inachevé. Malgré la colère, la déception, elle l'avait soutenue et était restée à ses côtés. Seule la disparition de leur fille comptait. Mais le ciment de leur couple s'était effrité. L'alibi de ton mari tient en 3 points. 1. La parole de Dambrine. 2. L'existence de leur petite niche douillette qu'on a découverte dans la tour du fort d'Ambleteuse. 3. La localisation de son téléphone qui indiquait bien une position GPS à Ambleteuse, à 60 bornes d'ici, au moment de tes appels signalant le retard de Sarah. Pas besoin d'être devin pour voir que Colin, même s'il ne le montrait pas de manière frontale, détestait Juliane. La piste de ton mari est abandonnée par la PJ. Il aurait fallu être aussi tordu qu'un personnage de tes livres, pour enlever sa propre fille en laissant son téléphone portable dans le fort d'Ambleteuse, afin de simuler une présence là-bas, entraîner sa maîtresse dans le mensonge, et donc la rendre complice. Juliane adorait Sarah. Jamais il ne lui aurait fait le moindre mal. C'est mon mari et ce n'est pas envisageable. Il y a un tas de raisons qui font qu'on peut faire du mal à quelqu'un, même en l'adorant. Mais passons, de toute façon, on n'a pas trouvé de faille, de preuve allant à l'encontre de leur récit de ce soir-là. Dès lors, l'enquête s'est résumée à du brassage de vent. Pas de témoins, pas de suspects, pas de mobile. Un néant de 6 mois, jusqu'à ce que vous receviez cette mèche de cheveux postée dans la Drôme le 20 juillet 2014. L'information circule dans les fichiers de la police et remonte à l'équipe de la crime de Lyon. Ils enquêtent depuis 1 an et demi sur 3 disparitions. La première à côté de Villefranche-sur-Saône en janvier 2013, la deuxième à Arcachon en juillet de la même année, la troisième à Gap en novembre. Le seul point commun qui relie l'ensemble et qui en fait une seule affaire, c'est la mèche de cheveux envoyée par courrier quelques mois après l'enlèvement au domicile des victimes. Léane fixait un point sur la table basse. Le moment atroce où elle avait ouvert l'enveloppe et découvert les longs cheveux blonds resterait gravé dans sa mémoire jusqu'à la fin de ses jours. Juliane, à bout de force, s'était effondrée et avait dû être emmenée à l'hôpital. Et c'est là que celui qu'on ignore encore être Andy Janson entre en piste? Oui. Des filles jeunes, jolies, qui disparaissent sans laisser la moindre trace. On suppose que le criminel réussit à entrer chez certaines victimes, mais il n'y a jamais d'effraction. Les lieux des enlèvements sont éloignés les uns des autres, Les lettres sont postées dans des villes différentes, mais les cachets de la poste indiquent toujours le même département, la Drôme, là où habite vraisemblablement le kidnappeur. Et surtout, il y a les mèches de cheveux qui relient sans ambiguïté les quatre disparitions. Il écrasa son index sur un chiffre noté au beau milieu d'une page. 512. Il y a quand même un flic qui a eu l'idée de les compter, ses cheveux, et de découvrir qu'il y en avait 512 chaque fois. Pas un de plus, pas un de moins. 512 cheveux pour chaque mèche envoyée. Notre kidnappeur fait dans le détail. Les policiers essaient de dresser un profil et pensent à un prédateur migrateur, un type qui voyage mais qui a un point d'attache dans la Drôme. Un tueur qui se poste quelque part et frappe dès qu'il en a l'occasion. D'où son surnom, le voyageur. Et tout ça nous ramène à l'ère des campings, à 500 mètres d'ici. Et une hypothèse prend forme. Et si le kidnappeur de Sarah stationnait en camping-car à Berck, parmi les quelques personnes présentes, la nuit de sa disparition? Il tourna la page de son carnet. Il connaissait l'affaire par cœur, bien sûr, mais sa propre écriture l'aidait à retrouver un moment précis, un lieu, une atmosphère. On va y revenir, à ces camping-cars. Poursuivons. En 2014 et 2015, 5 autres filles disparaissent après Sarah. Elles habitent Saint-Malo, Toulon, Trappes, Vannes et Creil, ce qui porte le nombre de disparus à 9 en comptant ta fille. 9 jeunes femmes sans histoire, bien intégrées, dont plus personne n'a jamais eu de nouvelles. Fin 2015, c'est le tournant. Une autre affaire. Laure Bourdon, 22 ans, disparaît à Marseille. 2 jours après son enlèvement, elle parvient à s'échapper du camping-car où son kidnappeur la retient, alors qu'il s'est arrêté en pleine campagne suite à une crevaison. Elle court sur la route, une voiture la récupère, et le chauffeur a le réflexe de noter le numéro de la plaque d'immatriculation du camping-car. La police interpellera le conducteur de l'engin quelques heures plus tard à un péage. Andy Janson, 45 ans. Oui, un chef de chantier au chômage, obsédé par les casse-têtes, les problèmes de logique. Le chiffre 2 et ses multiples, ainsi que des coups de partie d'échecs, noircissent les murs de sa chambre, dans sa maison située près de Lyon. Des centaines de constructions en métal, en bois, des cadenas à chiffres encombrent des pièces entières. Un vrai taré. L'affaire est d'abord gérée par la gendarmerie. Mais les flics de Lyon ne tardent pas à être mis au courant de ce dossier et sont persuadés de tenir enfin le kidnappeur, l'homme invisible qui leur donne du fil à retordre depuis 3 ans. Andy Janson. Léane avait croisé les yeux noirs d'Andy Janson une seule fois, lors de la reconstitution de l'un des enlèvements à Villefranche-sur-Saône. Un rideau de policiers les avait séparés du tueur, son mari et elle, et avait fini par les emmener à l'écart parce que Juliane, devenue incontrôlable, avait voulu se jeter sur Janson. Le tueur les avait considérés avec une absence totale d'émotion. Pas la moindre compassion derrière sa moustache grise et ses yeux éteints. Colin revint avec 2 verres d'eau et but le sien cul sec avant de poursuivre. Problème. Janson ne livre pas toute la vérité. Il dilue ses informations au compte-gouttes. Il ne nie pas les 9 enlèvements, mais, dans les premières semaines de détention, ne révèle pas l'endroit où se trouvent les corps. Mais même sans ces corps, il n'y a aucun doute, c'est bien lui. Les enveloppes trouvées dans le tiroir d'un meuble de sa maison sont les mêmes que celles contenant les mèches de cheveux reçues par les proches des victimes. Son camping-car regorge dans des compartiments cachés qu'il a fabriqués lui-même, d'entraves, de rouleaux de ruban adhésif, de sédatifs et drogues en tout genre. Et on découvre une cache astucieuse sous le lit, de la taille d'un corps, servant à y enfermer ses victimes. Léane se tourna vers les volets fermés, écouta le sable frapper les lattes, imagina l'obscurité à l'extérieur et les ombres qui s'y tapissaient. Depuis les barreaux de sa prison, il finit par parler. Il indique, après 3 mois d'incarcération, l'emplacement de 3 cadavres dans des forêts de montagne dans les Alpes. Ce salopard emmène les flics sur les lieux et leur donne les coordonnées GPS exactes des tombes. À cause, il hésita. Léane lui signifia d'un geste qu'il pouvait poursuivre. « Je te l'ai dit, je peux entendre, Colin. » « Très bien. » À cause de leur état de dégradation dû à l'humidité des sols et à la chaux vive, les corps sont impossibles à identifier. Mais l'ADN parle et révèle que ce sont ceux des premières, troisième et septième filles kidnappées. Janson revendique les viols et les mutilations. Il donne tous les détails avec une jubilation à faire vomir. Voici son mode opératoire. Il garde ses victimes quelques jours dans son camping-car, les force à des actes sexuels, avant de les tuer à main nue la plupart du temps, en les étranglant ou en les frappant à la tête pendant leur sommeil. Puis il s'en débarrasse dans la nature, les enterrant profondément, les saupoudrant de chaux vives qu'il achète dans des magasins de jardinage à droite à gauche pour ne pas se faire repérer. Une ordure qui se complaît dans ses explications et qui aime jouer avec la police. Léane inspira bruyamment. Quand Janson avait été arrêté, elle avait voulu savoir, tout connaître du calvaire de sa fille, affronter la bête, comme Julianne, comme les autres parents. Les flics n'avaient pas réussi à leur cacher la vérité. Du fond de sa prison, il se souvenait aux chiffres près des coordonnées GPS de chaque corps. Oui. Et jusqu'à ce jour, il a livré l'emplacement de 8 des 9 corps, la dernière révélation remontant à plus d'un an. Il lui reste une victime à livrer. Et c'est Sarah. Léane baissa ses yeux qui s'embuaient. Elle aurait tout donné pour savoir, comme les autres parents, être fixée, une fois pour toutes. Mais il fallait des derniers, et c'était Julianne et elle qui souffriraient jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce salopard se décide à parler. Il donne les emplacements dans le désordre. Il brouille les pistes. Il s'amuse. Il aime attirer toute l'attention sur sa personne. Alors il fait durer les révélations. Un jeu de plus pour lui, une façon de se distraire derrière les barreaux et de revivre ses fantasmes. Chaque révélation est un moyen pour lui de sortir prendre un bon bol d'air dans la nature. Quand tu penses que cette ordure de tueur en série reçoit des lettres de femmes de tous âges fascinées par lui, tout ça me dégoûte. Une grimace vint appuyer ses mots. À son domicile, on n'a pas retrouvé la moindre trace des filles. Il ne les y emmenait jamais. Il était soigneux, nettoyait souvent son véhicule. Les techniciens de l'identité judiciaire n'ont pas grand-chose. Ce fumier est une vraie savonnette, qui sait se montrer impassible quand tu plantes devant son nez les photos des disparus. C'est comme s'il livrait un énième problème à résoudre aux enquêteurs. Ça fait presque 2 ans qu'il est enfermé, et son procès n'est pas prêt d'avoir lieu vu la complexité du dossier. Mais pourquoi ne révèle-t-il pas où est Sarah, alors qu'elle fait partie des premières disparues? Pourquoi toutes les autres et pas elle? Il referma son carnet d'une main et fixa Léane d'un air sombre. Elle faisait tournoyer le fond de son verre, incapable d'oublier les traces de griffes dans le coffre du 4x4. Le message téléphonique de Julianne l'obnubilait. Il faut que je te parle de Sarah. J'ai découvert quelque chose de très important. Je ne devrais peut-être pas te dire ça, mais avec la découverte du coffre... Tu sais, il n'y a qu'un seul vrai élément qui relie en définitive Sarah à Janson. C'est cette mèche composée de 512 cheveux. C'est un lien solide qu'on ne peut pas remettre en question. Mais est-ce que ça fait du tueur en série le coupable à coup sûr? N'importe qui au courant de l'histoire des cheveux et de la disparition aurait pu vous envoyer le courrier. Et il y a du monde. Des flics, des juges, des proches des victimes. T'es en train de me dire que l'un d'eux pourrait avoir fait une chose pareille pour faire porter le chapeau à Janson? Pourquoi omettre cette piste? Un kidnappeur qui n'a rien à voir avec Janson, qui détient Sarah, coupe une mèche de cheveux, vous l'envoie, et le tour est joué. Il y a eu quelques fuites, des gens pouvaient savoir. Ça expliquerait que Janson n'ait pas encore révélé l'emplacement du corps, il ne sait pas. Tu écris ce genre d'histoire tordue dans tes bouquins. Tu es mieux placé que quiconque pour savoir que l'imagination de certains individus en matière criminelle est sans limite. Léane lança un regard vers la bibliothèque. Et donc tu mets Juliane dans le lot? Toujours ses soupçons sur lui. Non. Non, ça ne fonctionne pas. Il ne pouvait pas savoir pour les cheveux avant qu'on reçoive la mèche. Il n'est jamais allé à Valence ou je ne sais où pour poster ses fichues lettres. Janson connaissait cet endroit. Il est venu ici, à Berck. Il a décrit Sarah comme il a décrit les autres victimes. Il a parlé de la baie, des dunes, de la maison. Comment tu l'expliques? Je n'accuse pas Juliane, qu'on soit bien clair. Je dis juste que Janson est peut-être étranger à tout ça. Tu sais comment se passe un interrogatoire de police? On essaie de pousser les suspects dans leur retranchement pour qu'ils avouent. On leur met des photos sous les yeux, on leur dit des trucs du style « Allez, parle, c'est toi hein, qui l'a enlevé. C'est dans ces dunes-là que tu t'es caché pour la surprendre. Regarde ces photos et parle. » Enfin, tu vois le genre. Janson a très bien pu emmagasiner toutes ces données, s'en servir et les répéter. Ajouter une victime de plus à son palmarès. Ok. Admettons l'impossible, Janson n'a pas kidnappé Sarah. Et qu'est-ce que tu fais de ce couple de témoins qui affirme avoir vu son camping-car sur le parking le soir de la disparition de Sarah? Tu les as toi-même retrouvés. Ils stationnaient sur l'air le 23 janvier 2014. Ils ont juré sur l'honneur. 2 ans après, Léane. On leur a montré la photo d'un camping-car 2 ans après. Il rouvrit son carnet et présenta la photo collée d'un modèle chausson Welcome 55. Voilà ce qu'ils ont vu. Je passe sur cette aire de parking au moins 3 fois par semaine, et tu sais combien je croise de modèles de ce genre? C'est l'un des plus répandus. Nos témoins ont vu le véhicule, pas son occupant. Oui, d'après eux, un camping-car du même modèle que celui de Janson s'est mis en route au milieu de la nuit, et oui, ça peut paraître étrange, mais y a-t-il 1 heure pour quitter une aire de parking? Peut-être que le propriétaire du véhicule travaillait le lendemain, qu'il avait une urgence ou juste de la route à faire et qu'il préférait rouler de nuit. Le ton de Colin avait changé. Il vibrait d'une excitation nouvelle, comme si ces étranges rebondissements de l'agression et de la découverte dans le coffre étaient une opportunité pour s'arracher aux griffes de l'hibernation. Quand on est persuadé de quelque chose, toutes les coïncidences auxquelles on ne prêterait même pas attention d'ordinaire se transforment en indices, en éléments qui ressemblent à des messages qui nous sont adressés, alors que ça ne reste que des coïncidences. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et c'est ton avis, mais pas le mien. Léane n'en pouvait plus. Elle tenait à peine debout et la dernière fois où elle se rappelait avoir dormi une nuit complète remontait à une éternité. Ils discutaient encore 5 minutes, puis elle raccompagna Colin jusqu'à la porte. Il lui rendit les clés du 4x4. J'ai fermé les portières et le coffre. Je reviendrai demain en fin de matinée ou en début d'après-midi, pour le sang et l'ADN. Ne touche pas à la voiture d'ici là. Il baissa les yeux, les releva. C'est bien que tu sois là. Quand il fut parti, Léane laissa ses affaires en plan et monta à l'étage, pressée de s'allonger. La porte de la chambre de Sarah était entrouverte. Elle y jeta un regard, la gorge serrée. Rien n'avait bougé. Les mêmes posters de sportifs, Les mêmes vêtements posés au bout de son lit, la même douleur chronique, 4 ans après. Une plaie ouverte dans une maison qui n'en finissait pas de saigner. Pas étonnant que Gillian soit partie à la dérive. Elle alla dans la chambre conjugale, y déposa la valise et s'étendit sur le lit sans même ôter ses habits, les bras en croix. Quel cauchemar. Elle, seule dans cette grande villa isolée, comme l'un de ces personnages balancés au milieu de la tempête. Perdue, déboussolée, secouée. Elle imaginait un romancier qui prendrait plaisir à la manipuler, à la rendre folle. Elle se voyait en train d'écrire le livre de sa propre histoire comme Harpagon l'avait fait dans le manuscrit inachevé, et y mettre toute la noirceur du monde. Noir, toujours cette couleur. Ce même noir de ses vêtements d'adolescente, ce noir qu'elle aimait et qui pourtant l'avait fait hurler tant de nuits, il y avait si longtemps. Elle se redressa d'un coup transi de froid. Une main invisible et glacée l'avait effleurée. Elle l'avait senti pour de vrai. C'est dans ta tête. Croisant ses bras pour se réchauffer, elle se rendit à la salle de bain pour une toilette rapide. Elle ne put dire s'il manquait des objets, si quelqu'un était venu pour se servir dans leurs affaires intimes. Elle s'intéresserait de près à des détails plus tard. Elle éprouva néanmoins de la peine. Julianne avait remisé ses crèmes, ses savons, ses shampoings au fond de l'armoire. Il avait gommé sa présence. Existait-elle encore pour l'ancien Julianne? Qu'allait-il se passer désormais avec le nouveau Julianne, celui sans mémoire? Dans ce malheur, y avait-il une possibilité de reconstruire un avenir à deux? Y avait-il une seconde chance? Aux alentours de 20h, ce mercredi, elle se coucha dans leur lit vide, du côté de Julianne, les jambes repliées dans la position du fœtus, comme pour se rassurer. Fixa la porte, ouverte sur l'obscurité du couloir, se releva pour la fermer à clé et plongea de nouveau sous les couvertures. L'oreiller sentait le musc. C'était la caresse de l'odeur de son mari, le souvenir de sa force tranquille. Avant de baisser l'intensité lumineuse, elle écrivait des horreurs mais ne voulait pas dormir dans le noir, pas cette nuit. Elle retira sa montre, et voulut la mettre dans le tiroir de la table de nuit. Son cœur fit un bond lorsqu'elle y découvrit une arme. Elle la reconnut au premier coup d'œil. Elle en avait déjà croisé lors de ses recherches. Un Sigsauer 9 mm Parabellum. L'arme des flics, elle le savait. Dans son livre, Judith avait abattu Harpagon avec le même pistolet. Elle le prit par la crosse. Un vrai flingue. Elle avait déjà tiré avec ce type d'arme dans un centre d'entraînement. Le numéro de série n'avait pas été limé. Il ne s'agissait donc sans doute pas d'un joujou qui circulait sur les marchés parallèles ou qu'on refourguait contre une poignée de billets. Qu'est-ce qu'un tel instrument de mort fichait là? Où Julianne se l'était-il procuré? Pourquoi le modèle exact tel que décrit dans le manuscrit inachevé? Elle appuya sur un poussoir et fit glisser le chargeur vers le bas. Le magasin était presque plein. Presque. Comme dans le livre, il manquait juste une balle.